Voltaire, arrêt notable sur la liberté naturelle. On a fait en plusieurs pays, et surtout en France, des recueils de ces meurtres juridiques que la tyrannie, le fanatisme ou même l'erreur et la faiblesse ont commis avec le glaive de la justice. Il y a des arrêts de mort que des années entières de vengeance pourraient à peine expier et qui feront frémir tous les siècles à venir. Tels sont les arrêts rendus contre le légitime roi de Naples et de Sicile par le tribunal de Charles d'Anjou, contre Jean Hus et Jérôme de Prague par des prêtres et des moines, et contre le roi d'Angleterre, Charles Ier, par des bourgeois fanatiques. Après ces attentats énormes commis en cérémonie, viennent les meurtres juridiques commis par la lâcheté, la bêtise, la superstition, et ceux-là sont innombrables. Nous en rapporterons quelques-uns dans d'autres chapitres. Dans cette classe, il faut ranger principalement les procès de sortilège, et ne jamais oublier qu'encore de nos jours, en 1750, la justice sacerdotale de l'évêque de Würzburg a condamné comme sorcière une religieuse, fille de qualité, au supplice du feu. C'est afin qu'on ne l'oublie pas que je répète ici cette aventure dont j'ai parlé ailleurs. On oublie trop et trop vite. Je voudrais que chaque jour de l'année, un crieur public, au lieu de brailler comme en Allemagne et en Hollande, « Quelle heure il est ?» ce qu'on sait très bien sans lui, cria « C'est aujourd'hui que dans les guerres de religion, Magdebourg et tous ses habitants furent réduits en cendres. C'est ce 14 mai à 4h30 du soir que Henri IV fut assassiné pour cette seule raison qu'il n'en était pas assez soumis au pape. C'est à tel jour qu'on a commis dans votre ville telle abominable cruauté sous le nom de justice. » Ces avertissements continuels seraient fort utiles. Mais il faudrait crier à plus haute voix les jugements rendus en faveur de l'innocence contre les persécuteurs. Par exemple, je propose que chaque année, les deux plus forts gosiers qu'on puisse trouver à Paris et à Toulouse prononcent dans tous les carrefours ces paroles. C'est à pareil jour que 50 magistrats du Conseil rétablirent la mémoire de Jean Calas d'une voix unanime, et obtinrent pour la famille des libéralités et du roi même, au nom duquel Jean Calas avait été injustement condamné au plus horrible supplice. Il ne serait pas mal qu'à la porte de tous les ministres, il y eut un autre crieur qui dit à tous ceux qui viennent demander des lettres de cachet pour s'emparer des biens de leurs parents et alliés ou dépendants. Messieurs, craignez de séduire le ministre par de faux exposés et d'abuser au nom du roi. Il est dangereux de le prendre en vain. Il y a dans le monde un maître gerbier qui défend la cause de la veuve et de l'orphelin opprimé sous le poids d'un nom sacré. C'est celui-là même qui a obtenu au barreau du Parlement de Paris l'abolissement de la Société de Jésus. Écoutez attentivement la leçon qu'il a donnée à la Société de Saint-Bernard, conjointement avec Maître Loiseau, autre protecteur des veuves. Il faut d'abord que vous sachiez que les révérends pères Bernardins de Clairvaux possèdent 17 000 arpents de bois, 7 grosses forges, 14 grosses métairies, quantité de fiefs, de bénéfices et même des droits dans les pays étrangers. Le revenu du couvent va jusqu'à 200 000 livres de rente. Le trésor est immense. Le palais abbatial est celui d'un prince. Rien n'est plus juste. C'est un faible prix des grands services que les Bernardins rendent continuellement à l'État. Et il arriva qu'un jeune homme de 17 ans, nommé Castille, dont le nom de baptême était Bernard, crut par cette raison qu'il devait se faire Bernardin. C'est ainsi qu'on raisonne à 17 ans et quelquefois à 30. il alla faire son noviciat en Lorraine dans l'abbaye d'Orval. Quand il fallut prononcer ses vœux, la grâce lui manqua. Il ne les signa point, s'en alla et redevint homme. Il s'établit à Paris au bout de 30 ans, ayant fait une petite fortune. Il se maria et eut des enfants. Le révérend père procureur de Clairvaux, nommé Mailleur, digne procureur, frère de l'abbé, ayant appris à Paris d'une fille de joie que ce Castille avait été autrefois bernardin, complote de le revendiquer en qualité de déserteur, quoiqu'il ne fût point réellement engagé, de faire passer sa femme pour une concubine et de placer ses enfants à l'hôpital en qualité de bâtard. Il s'associe avec un autre fripon pour partager les dépouilles. Tous deux vont au bureau des lettres de cachet, exposent leur grief au nom de Saint-Bernard, obtiennent la lettre, viennent saisir Bernard Castille, sa femme et leurs enfants, s'emparent de tout le bien et vont le manger où vous savez. Bernard Castille est enfermé à Orval dans un cachot où il meurt au bout de 6 mois, de peur qu'il ne demande justice. Sa femme est conduite dans un autre cachot à Sainte-Pélagie, maison de force des filles débordées. Et de 3 enfants, l'un meurt à l'hôpital. Les choses restent dans cet état pendant 3 ans. Et au bout de ce temps, le dame Castille obtient son élargissement. Dieu est juste, il donne un second mari à cette veuve. Ce mari, nommé Launay, se trouve un homme de tête qui développe toutes les fraudes, toutes les horreurs, toutes les scélératesses employées contre sa femme. Ils attendent tous deux un procès aux moines. Et il est vrai que frère Mailleur, qu'on appelle Don Mailleur, n'a pas été pendu. Mais le couvent de Clairvaux en a été pour 40 000 écus et il n'y a point de couvent qui n'aime mieux voir pendre son procureur que de perdre son argent. Que cette histoire vous apprenne, messieurs, à user de beaucoup de sobriété en fait de lettres de cachet. Sachez que Maître Élie de Beaumont, un célèbre défenseur de la mémoire de Calas, et Maître Target, cet autre protecteur de l'innocence opprimée, ont fait payer 20 000 francs d'amende à celui qui avait arraché par ses intrigues une lettre de cachet pour faire enlever la comtesse de Larziz, mourante, la traîner hors du sein de sa famille et lui dérober tous ses titres. Quand les tribunaux rendent de tels arrêts, on entend des battements de mains du fond de la grande chambre aux portes de Paris. Prenez garde à vous, messieurs. Ne demandez pas légèrement des lettres de cachet. Un Anglais, en lisant cet article, a demandé « Mais qu'est-ce que c'est qu'une lettre de cachet ?» On n'a jamais pu le lui faire comprendre.